Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au tout premier verset du livre de la Genèse, nous lisons « Au commencement, Dieu créa ». Ce passage semble ne mentionner qu'une seule personne, car le mot « Dieu » y est au singulier alors qu'il s'agit d'un mot plural, traduit de l'hébreu « Elohim », dont la terminaison « im » indique le pluriel. Par conséquent, ce mot aurait dû être traduit par « la famille créatrice, toute puissante » ou encore par « le royaume de Dieu ». Elohim ne signifie pas « un Dieu », pas davantage « plusieurs dieux », mais son sens est collectif, comme le mot « famille ». Nous retrouvons ce même sens collectif dans le mot « église ». Le Christ a bâti son Église, une seule Église, mais qui est composée de nombreux membres. Les Écritures confirment qu'il n'y a que deux membres dans la famille divine. Le Très-Haut, qui deviendra plus tard le Père, et l'Éternel, Yahvé, qui deviendra son Fils, comme le confirme le livre des Psaumes, où les verbes sont au temps futur. Lui, il m'invoquera. « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il est évident que dans la première partie de ce passage, il s'agit du Christ qui, selon l'épître de Paul aux Colossiens, devint le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier à être ressuscité à la vie éternelle. Il deviendra le plus élevé des rois de la terre lors de son retour en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Le Très-Haut est Dieu. L'Éternel aussi est Dieu. Pour le moment, ils sont les deux seuls êtres de la famille divine. À l'époque de l'Ancien Testament, la plupart des gens ne connaissaient pas le Très-Haut, bien qu'il soit mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures. Rappelez-vous qu'une des raisons de la venue de Jésus-Christ sur terre était de faire connaître le Père. L'apôtre Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Selon le texte original, il est celui qui l'a révélé. Or, on révèle ce qui est inconnu ou tenu secret. Jésus dit à ses disciples « « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » L'expression « dès maintenant » exprime bien l'idée de découverte. Si le Dieu qui s'est montré à Abraham, à Moïse, qui a parlé au peuple d'Israël du haut de la montagne du Sinaï, avait été le Très-Haut, Jésus n'aurait pas eu à le révéler. Jean confirme ce que je vous explique en écrivant « Personne n'a jamais vu Dieu. » Le nom du Très-Haut est mentionné pour la première fois dans le livre de la Genèse, où nous lisons que Melchisédek était sacrificateur du Dieu Très-Haut. David était un des rares privilégiés à savoir qui est le Très-Haut, ainsi que Daniel, car il en parla au roi Nebuchadnezzar dans le 4e chapitre de son livre. Les deux personnages de la famille divine décidèrent de créer l'homme et la femme. L'homme fut formé de la poussière et ne reçut pas la vie éternelle. Il n'y avait rien d'immortel en lui, c'est ce que l'Éternel expliqua à Adam. « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » La création physique a connu son achèvement dans le premier chapitre de la Bible. Mais le but même de cette création physique n'est pas encore atteint pour autant, car avec le premier couple a commencé le grand processus qui doit aboutir à la création spirituelle de l'homme. Le but de Dieu étant d'élargir sa famille avec des enfants spirituels. Si l'homme physique persévère dans la grâce et la connaissance, il croîtra vers la perfection et sera transformé lors d'une résurrection en être spirituel. L'homme qui aura été engendré de Dieu naîtra dans la famille divine. Que l'homme puisse devenir un dieu est une affirmation qui choque. Et cependant, lisons ce que le Christ déclare aux Juifs. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Cette expression, vous êtes des dieux, nous ramène au mot Elohim du premier chapitre de la Genèse. Ce qui mit les Juifs en colère au point de vouloir le lapider n'était pas le fait de considérer Dieu comme un père, ni même l'expression « vous êtes des dieux », mais c'est ce que Jésus avait dit avant cela, « moi et le Père, nous sommes un ». Considérer l'Éternel comme un père était chose courante. Lisons comment le peuple d'Israël considérait Yahvé. « C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. » Il poursuit, « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. » Par contre, l'Éternel précise ce qu'il représente pour le peuple. « Car je suis un Père pour Israël. » Remarquez ce que Yahvé affirme. « Je suis un Père. » Il ne dit pas « Je suis le Père ». Parfois, tout en sachant très bien que ce n'est pas la réalité, nous considérons une personne âgée comme un père ou une mère parce qu'elle nous conseille et prend souci de nous. De nos jours, les gens sont encore prêts à crier au blasphème lorsque quelqu'un avoue croire aux paroles que Jésus a prononcées avant son arrestation. « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Dans le premier chapitre de son évangile, l'apôtre Jean déclare que Jésus, la parole, est Dieu. C'est lui l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle il dut abandonner sa divinité pour vivre et mourir comme un simple homme. Ce même Jésus avait dit aux Juifs être celui qui s'était présenté à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent sous le nom de « Je suis ». Les informant ainsi qu'une des deux personnes de la famille divine était devenue un être humain, sujet à la mort, soumis à toutes les tentations. Cette réalité était inacceptable pour eux qui attendaient le Messie. Voilà pourquoi ils ne supportèrent pas qu'il se déclare fils de Dieu. Dans le monde chrétien moderne, c'est impensable que des êtres humains deviennent des dieux. À l'époque du Christ, le fait qu'un dieu devienne un homme dépassait l'entendement des gens. Aujourd'hui, on trouve la même incrédulité à l'idée qu'un homme puisse devenir un dieu. Jésus, notre Messie, a été le seul être humain engendré par le Père, le Très-Haut, dans le sein d'une femme. Lors de sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré « Fils de Dieu avec puissance » selon l'Esprit de sainteté. Il était dès lors né de nouveau. Jésus expliqua à Nicodème que pour entrer dans le royaume de Dieu, l'homme devait naître de nouveau. Il ne s'agit pas ici d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Il affirme, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On peut voir les effets du vent sur les feuilles, ou la poussière qu'il soulève, mais il demeure invisible. Il en est de même pour tout homme né de l'Esprit, né de nouveau. Pourquoi? Parce que, lors de la résurrection d'entre les morts, il deviendra un être spirituel. À moins de se manifester physiquement, les êtres spirituels sont invisibles. Selon Paul, les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cependant, ils restent invisibles à l'œil humain. Le 8e chapitre de l'Épître aux Romains explique bien ce que signifie devenir fils de Dieu. Ce chapitre explique que l'être humain physique, avec l'esprit charnel qui est en lui, ne peut pas obéir parfaitement à la loi de Dieu, ni même plaire à Dieu. Un sacrifice doit payer l'amende des péchés, et l'esprit de l'homme doit changer et s'orienter vers ce qui est spirituel. Paul écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien entendu, pour le moment, le véritable chrétien n'est qu'un enfant engendré de Dieu. Il naîtra de nouveau lorsqu'il ressuscitera dans la famille divine. Alors il sera Dieu. Il vivra à jamais dans cette famille dont le nom est Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu joint son esprit à l'esprit de celui qui accepte de se repentir et de se soumettre à ses lois qu'il l'introduit dans son royaume. Le chrétien doit développer son caractère, acquérir de l'expérience et atteindre une certaine maturité. Il doit tendre ses efforts vers cette perfection qui caractérise son Père céleste. Ce n'est qu'alors qu'il pourra naître dans le royaume, dans la famille divine, au moment de la résurrection. Quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, ne nous décourageons pas, car une promesse est faite à ceux qui veulent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce que Paul a écrit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le destin du véritable chrétien est de devenir un fils de Dieu, tout comme Christ est lui-même fils de Dieu. Il doit naître dans la famille divine par une résurrection. Il doit devenir semblable à Jésus, au premier-né d'entre plusieurs frères. Le monde chrétien traditionnel n'admet pas que le Christ soit le premier-né d'entre les morts. Au moment de sa résurrection, il a été le premier à naître de nouveau entre plusieurs frères, retrouvant ainsi sa divinité, son statut de Dieu qui est la destinée prévue pour l'homme. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.